Bonjour aux auditrices et bonjour aux auditeurs. J'ai envie de commencer autrement aujourd'hui. Bienvenue dans l'émission Les Faramineux. Voilà, avec aujourd'hui nous sommes mardi.
Roulement de Mathieu.
Roulement de Mathieu.
Je me roule par terre dans le studio.
Allez, les tambours en avant. Bonjour Mathieu Tessier.
Bonjour Arlette.
Mais aujourd'hui nous t'avons non pas pour que tu parles d'une ville ô combien célèbre du Canada, mais pour ou du Québec, mais pour nous parler de deux pièces que tu es allé voir.
Oui, je suis allé voir deux spectacles la
et
semaine dernière
que tu vas nous critiquer.
Je vais vous en parler, du moins.
Favorablement.
Ou toujours.
Bien évidemment. En deuxième partie d'émission, alors restez avec nous parce que là, on va. C'est pas la peine de rester tant qu'il y a Mathieu, mais par contre, après rester. Ça commence bien.
Nous recevons
Simon Vaillancourt, qui est réalisateur de La vie devant moi, un documentaire sur la vie des adolescentes et des adolescents aux prises avec le cancer. Magnifique ce documentaire. On en parle avec lui dans un instant. On part en musique. D'abord, Saint Seneca, Happy Alone. Je l'ai dit comme il faut.
Guilty pleasures at best, gouge the floors in our chests, and this the only vestige left. Next time will be better, I guess.
Ben voilà, comme tu le disais si bien à l'instant, c'est bientôt, c'est toi qui commences. Alors, avec lequel spectacle on commence?
J'ai choisi le Drag King, le spectacle Rock
et
Bière,
oui.
Parce que c'est le premier que je suis allé voir. Ensuite, je vous parlerai après la chanson de Rita dans le désert. Mais le show de Drag King que j'ai vraiment beaucoup aimé.
Oui, c'est quoi? C'était la première fois que tu voyais ça?
J'avais déjà vu des spectacles de drag queen,
oui.
Mais de drag king, c'était la première fois. Et même quand on avait reçu l'invité, c'était la première fois que j'en entendais parler. C'est une création En fait, à la création et à la mise en scène, nous avons Geneviève Lebel, ou Labelle, pardon, oui. Et à la création et à l'interprétation, Mélodie, je devrais dire la merveilleuse Mélodie, Noël Rousseau.
Toutes les deux, d'ailleurs.
Qui interprète Roquebière. Et il y a aussi celle que j'appellerai les parenthèses, Sophie Levasseur et Elisabeth Gauthier-Pelletier. Vous allez voir un peu plus tard pourquoi je les appelle les parenthèses. C'est une production de la compagnie d'un nom que j'aime beaucoup, Pleurer dans douche, qui revendique l'hybridité des genres avec un spectacle d'un féminisme affirmé et fier. Donc, on est en fait entre la performance, entre la pièce de théâtre et entre le documentaire. C'est présenté jusqu'au 4 décembre à l'Espace Libre. Et comme le dit si bien le site de l'Espace Libre à propos du spectacle, en parlant du Drag King, cet art n'est pas seulement un travestissement, il s'agit d'abord d'une manifestation à tes souhaits de la communauté LGBTQ+, qui, marginalisée, s'est réappropriée les clichés homophobes dont elle était victime, oui, en assumant publiquement un geste politique de transgression des règles de genre et de la morale. Et c'est exactement ce que j'ai vu.
C'est excellent, ça m'a l'air d'être excellent.
D'abord, on appelle le spectacle, c'est un cabaret drag. Qui dit cabaret dit non seulement les sièges de la salle, mais aussi des tables où on peut s'asseoir. Il y avait à peu près une dizaine de tables.
On peut s'asseoir sur les tables?
Oui, oui, exact. Une table avec des chaises autour, bien sûr. Et sur la scène, en fait, dans la salle, il y a une scène qui est aussi large que la scène, mais aussi mince, si tu veux, qu'un catwalk, comme un défilé de mode. Et le tout est décoré de merveilleuses flammes rouges et oranges. Ça donne le ton quand tu arrives dans la salle, de voir des flammes sur une scène. Oui. Au fond, sur le mur, il y a un grand écran, oui, qui va être utilisé pour projeter des animations, des extraits de documentaires. Et de chaque côté de l'écran, il y a deux miroirs avec des globes lumineux, tu sais, les miroirs de loge, en fait, devant lesquels les comédiens se préparent.
Ah, d'accord.
Parce que c'est aussi ça, le spectacle de Drag King de Roquebière. On parle de musique, on parle de lip-sync et on parle de maquillage aussi.
Ah oui.
De préparation, en fait.
Parce que quand on parlait au départ, je croyais que c'était les boules à facettes.
Non, c'est vraiment là, tout autour du miroir, t'as des globes lumineux, en fait, oui, des ampoules. Et moi qui suis, en fait, loin d'être familier avec le genre du drag queen, j'en ai déjà vu quelques-uns, mais j'avais oublié que c'était beaucoup de lip-sync. Et dans ce spectacle-là, comme le nom du spectacle le dit, Roquebière, ben on a droit à du rock de la fin des années 70 au début des années 80. Donc, on passe de des chansons que je n'avais pas entendues depuis très longtemps et la salle était très contente de réentendre.
En délire. Ah ben oui, ben, c'est
oui,
sûr.
Exact. Et on parle du talent de Mélodie Noël Rousseau. Pour ce qui est du lip-sync, elle est très forte. Parce que non seulement il faut que tu interprètes la chanson, c'est dans la gestuelle, c'est aussi dans les labiales, dans le mouvement labial, et elle est très forte. Et à la fin du spectacle, il y a une partie dont je vais vous parler un petit peu plus tard, qui m'a vraiment impressionné parce qu'elle fait du lip-sync sur des enregistrements vocaux. Mais je vais vous en parler un petit peu plus tard.
Oh.
Pendant le spectacle, on a droit à de nombreux succès, comme par exemple, je cherche dans... Ah oui, la chanson Love Hurts du groupe Nazareth. Love Hurts! Je ne vous chanterai pas le reste parce que je sens que j'ai eu chaud tout d'un coup, vraiment. Et on a évidemment Jerry Boulet. On a, donc c'est du rock, des solos de guitare, des filles en tenue légère, comme celles qui nous annoncent les rounds dans un match de boxe, avec les cartons,
oui,
là, en petite short et en camisole. Enfin, bref, c'est un spectacle qui est rempli de clichés, qui est parfois attristant, mais toujours assumé. Parce que c'est ça aussi le but de la revendication.
C'est ça,
voilà,
c'est le principe de spectacle.
Puis,
c'est
comme
spectacle.
Je disais, l'interprète est vraiment fabuleuse dans sa gestuelle, dans ses costumes aussi. Puis je vais prendre un peu de votre temps, à tout le monde, à toi aussi Arlette, puisque tu es devant moi, pour parler des accessoires. Parce que pendant le spectacle, en fait, ce que je connaissais d'un spectacle de drag queen, c'était qu'un artiste venait sur scène, faisait une chanson. Ensuite, il y avait un autre artiste qui venait faire une autre chanson. Mais dans le cas du spectacle Roquebière, elle est seule. Et on a droit à 4 à 5, je ne les ai pas comptés, mais il y en a au moins 5 changements de costume.
Wow.
Et à chaque fois qu'il y a un changement de costume, là, on a droit à être... On est en fait j'ai le terme en anglais, entertaining, là, on est diverti par les deux parenthèses qui se tiennent toujours d'un bord et de l'autre de Roquebière en faisant des mimiques, en dansant et en littéralement en faisant des shows de boucan, ce qui est très drôle. Et on peut voir, en fait, l'artiste derrière se changer. Mais l'attention est détournée par soit l'écran qui est au mur, ou soit les deux danseuses.
Soit les danseuses que tu appelles des parenthèses. Elles vont être super contentes de le savoir.
En fait, elles sont hyper efficaces dans leur rôle, parce que oui, elles sont divertissantes, mais aussi, elles nous permettent de pas trouver le temps long quand vient le temps de faire un changement de costume. Parce que c'est non seulement les vêtements que l'artiste change, mais c'est aussi ses maquillages, son maquillage.
Oui, c'est ça.
Mais il y a un moment très beau, très touchant, en fait, où il n'y a pas de divertissement, il n'y a pas de diversion. Mmh. On voit l'artiste enlever son costume, il n'y a pas de musique, ça se fait sobrement, puis c'est à ce moment-là où on voit tout l'effort qui est mis, parce que quand c'est dans l'action, on n'a pas le temps, on sait juste, on la voit, ça grouille en arrière, puis on ne sait pas ce qui se passe. Mais là, ils nous ont permis cette intimité-là, de voir l'artiste enlever ses vêtements, remettre son maquillage, enlever du maquillage, puis ça prend un bon 2 minutes où il n'y a pas de musique, puis les gens sont super... parce qu'on était intrigués peut-être, mais très respectueux. Puis
ça devait être émouvant.
Prends le temps que tu as besoin, tu sais, ouais. Parce que... puis elle est revenue avec un numéro où, surprojeté à l'écran, il y avait un choix de 5 chansons, comme un jukebox. Et selon les
applaudissements
cris de la foule, on est tombé. Évidemment, le dernier choix, je pense que c'était conscient aussi. Je pense qu'elle savait où elle s'en allait, en nous offrant des choix qui se terminaient avec Jerry Boulette.
D'accord.
Jerry Boulette au Québec.
Oui,
bah, t'sais,
bah, oui, je connais.
Et puis là, elle dit, le pouce en l'air, elle va se transformer en Jerry Boulette. Les favoris, les...
Wow.
C'était bien. Même si on n'aime pas le style musical, ce qui était... Je vais l'avouer, c'est... pas mon genre de musique, mais t'es tellement pris dans le spectacle de voir tous les gens, puis tout le monde chantait, tout le monde les connaissait, on les connaît toutes de toute façon ces chansons-là.
Ben oui,
puis là, les accessoires, c'est des guitares faites en canette de bière, c'est déjanté, mais c'était vraiment très efficace. Et ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est que l'utilisation de l'écran nous permet de recevoir d'informations pratiques sur ce qu'est l'histoire du drag king. Et donc, c'est sous forme de documentaire, si tu veux. On parle du drag king dans le monde, en Amérique, au Canada et surtout à Montréal. Il y a des extraits d'archives, il y a des extraits d'entrevues avec des drag queens, mais surtout avec des drag kings. Puis pour terminer, c'est ça, peut-être 20 minutes, les 20 dernières minutes du spectacle,
oui.
Elle a interviewé des drag kings.
D'accord.
Qui là, on se rend compte qu'ils ont beaucoup de difficultés dans le milieu parce qu'ils ont été excessivement snobé par non seulement la population en général, mais par les drag queens aussi.
Oui.
Ils ne comprenaient pas ce que les filles faisaient en se déguisant, en s'habillant en homme. Et,
ce qu'ils font eux en s'habillant en femme.
Exact.
On va dire.
Mais il y a des commentaires très durs qu'on entend. Et c'est accompagné de façon magnifique par Mélodie Noël Rousseau qui va faire du lip-sync sur des enregistrements d'entrevue.
Ah,
et ça, j'avais jamais vu ça. C'est une chose d'interpréter une chanson, de faire les mimiques comme Elvis,
oui.
Mais quand il est temps d'interpréter quelqu'un qui parle, et on peut s'imaginer, par exemple, quelqu'un qui était ça à côté de moi, qui écoute ma voix et qui reprend mot pour mot tout ce que je dis avec mes hésitations. Et elle se transforme aussi dans sa gestuelle. Quand quelqu'un rit, elle va faire semblant de rire. Et ne serait-ce que pour cette partie du spectacle-là où on peut voir le talent de synchronisation labiale de cet artiste-là, ça vaut vraiment la peine. Et c'est hyper touchant ce que les gens disent aussi. Ils parlent de leur histoire, des premiers cabarets drag king, de la difficulté qu'ils ont eu de se faire accepter comme drag king. Alors,
allons
ne serait-ce
voir.
Que pour le divertissement, c'est hyper agréable. Les gens, tu es entouré de gens qui ont vraiment du fun. Sur scène, les gens ont du plaisir.
Et
puis
tu apprends
quelque chose aussi. Parce que c'est pas pour rien qu'ils ont appelé ça un théâtre documentaire. Donc, à l'espace libre, jusqu'au 4
décembre.
Décembre. Ouais. C'est sur la rue Folhomme, 1945, rue Folhomme.
Et là, on part en musique avec Arthur H.
Oui,
qui nous
Tokyo
chante.
Kiss.
Tokyo Kiss.
Thank you.
I lost my name in a Tokyo kiss. I lost my name.
Maintenant, tu vas nous parler de Rita dans le désert.
Oui, une pièce qui a été produite par le Théâtre de l'Opsis en collaboration avec le Théâtre de la Colline, ou en fait, je devrais dire le Théâtre de l'Opsis et de la Colline et le Théâtre national de Paris en co-diffusion avec le 4 sous, qui est présentée elle aussi jusqu'au 4 décembre au Théâtre 4 sous, je viens de le dire.
Dans alors, qu'est-ce que c'est cette histoire?
Oui. Isabelle Leblanc, quand elle parle de sa pièce, elle dit... Dans cette pièce, j'ai un désir secret, celui de sauver ce qui n'a jamais existé, faire vivre quelque part ce qui n'est jamais advenu. Il faut témoigner autant de la vie que de la mort, aussi bien de ce qui a été, de ce qui n'a jamais vu le jour. Premièrement, quand c'est ça, c'est comment l'auteur, l'autrice et la metteur en nom, scène, je savais, je te regardais, je me dis non, peu importe.
Chaque fois, il le fait, ouais. Chaque fois, à croire qu'il le fait exprès.
Les décors sont de Max Otto Fauteux, que j'ai beaucoup aimé. En fait, j'appellerais ça des théâtres, un décor engageant, parce que on est vraisemblablement, quand on regarde la scène, dans un sous-sol quelconque d'une usine, un endroit excessivement bruyant où se côtoie des contrôles d'une machine qui a l'air complexe. On ne sait pas, en fait, au début. Donc, ce qu'on regarde. Ce qu'on voit, c'est des piles de papier qu'on apprend plus tard à être des journaux. Il y a une table de travail, il y a une échelle au mur et un téléphone. Donc, c'est clairement un endroit industriel. On apprend un peu plus tard qu'on est au milieu d'une machine qui imprime des journaux.
D'accord.
Le décor est engageant. Il y a beaucoup de choses qui se passent. On est dans le milieu d'une machine, donc il y a un grand souci pour ce qui est du concept, de la conception sonore, pardon, qui a été faite par Éric Forget, qui est aussi important pour la pièce. N'oubliez pas, comme je disais, qu'on est dans... Il y a un côté industriel qui est bien représenté par le décor, mais aussi par l'ambiance sonore. Il y a constamment un bruit de machine,
oui.
Les lumières...
Mais venons-en dans la pièce. Est-ce que Rita, donc... est un personnage qui est censé participer à une course, hein, puisqu'on avait
Ben c'est ça. Au centre de cette pièce-là se trouve le personnage qui est interprété par Roger Larue. Et quand je dis interprété, je devrais plutôt dire que c'est un véritable tour de force, parce que la pièce repose pratiquement uniquement sur les épaules de Roger Larue, qui joue le rôle de Lucien Champion. Lucien Champion, en fait... Ben en fait, il y a aussi... Je
il parle de Rita, mais on la voit
exact.
Presque pas.
Donc, c'est un long soliloque. Il y a bien une deuxième interprète qui est jouée par Alexandrine Agostini, qui porte le nom de Rita Hull, le nom de la pièce, mais qui dit, je pense, une ou deux phrases. Mais n'allez pas penser que parce qu'elle dit une ou deux phrases, sa performance en est atténuée. Elle est capable de tout faire passer ce qu'elle a à faire passer. En fait, juste sa présence est hyper efficace. Et comme je vous dis, je pense, je ne les ai pas comptés, mais je pense qu'elle dit une ou deux phrases, mais le fait, par son jeu, par l'économie de son, de ses gestes et par son regard, elle est énormément présente. Il y a aussi le fait que Lucien Champion, le personnage, n'arrête pas de parler de Rita Hall. De quoi ça parle? C'est les aventures de Rita Hall, une exploratrice quinquagénaire engagée dans un rallye automobile qui se déroule dans l'hostile désert de Gobi, une course mythique de quatre roues motrices sur 25 000 km. Lucien Champion, un journaliste qui rêve, lui, de devenir un Balzac des temps modernes, décide de parler des exploits de Rita Hall.
Oui. Si on a bien entendu la fois où on l'a reçu, enfin, c'était aussi, c'est aussi pour se faire connaître.
Ben c'est ça, il dit, si j'en fais une star, elle fera de moi un écrivain. Voilà. Et lui qui rêve de devenir...
C'est de la manipulation, ni plus ni moins.
Ben en fait, moi, ça m'a excessivement touché parce que dans le milieu du... dans ce milieu industriel, comme dans n'importe quel milieu de béton et de surface dure, il y a toujours une fleur qui est capable de pousser. Oui. Et c'est la fleur de la création et de l'imagination. Parce qu'on voit cet auteur-là qui rêve de devenir un grand auteur. En fait, c'est comme s'il se parle à lui-même tout en travaillant. Et ça doit faire 25 ans qu'il est dans ce sous-sol-là, mais il rêve de s'en sortir. Et sa façon de s'en sortir, c'est d'écrire ce livre. Et c'est comme s'il nous dictait ce qu'il allait écrire. Il y a des moments de réflexion. Puis il se met à parler, il soliloque en fait. Et il décrit toutes les aventures que, la ribambelle d'aventures que Rita...
Qu'il imagine ou qu'elle va avoir.
Et il y a un twist dans l'histoire, un genre de drame. Je ne le dirai pas parce que c'est pas nécessairement un punch, mais...
il faut aller voir la pièce pour le savoir.
À partir de ce moment-là, on sent que ses espoirs, son rêve de devenir un grand écrivain, et tout est chamboulé. Et... La performance de Roger Larue est absolument magnifique. Moi, je pense qu'on s'en parlait avant de rentrer en onde. J'avais jamais vu une pièce où toute la pièce repose sur les épaules d'une seule personne. Et ça a tellement l'air facile. Il est tellement bien, il campe tellement bien son personnage qu'on est vraiment... Il est touchant, il est solide. Après 20 minutes du début...
Il nous fait rêver avec lui.
Aussi. Ah oui, on le suit dans ses aventures. Oui. Et il y a une utilisation de projection qui est absolument formidable. On s'amuse, on rit, on trouve ça triste. C'est une pièce qui part de ce qui existe sans que ça se soit passé. C'est une pièce qui est où tout est possible parce que tout est à écrire. Et qu'est-ce qu'on fait une fois que c'est écrit, quand tout s'avère être une illusion? On part de la pièce avec ce genre de réflexion-là.
Ouais, ça permet aussi, vite fait pour en finir dessus, ça permet aussi une certaine créativité. Mm-hmm. Ce que tu as imaginé n'arrive pas, hop! Tu peux bifurquer sur autre chose et c'est en ça que la créativité existe.
La résilience de ce personnage-là, allez voir la pièce.
Allez au 4 sous.
Ça vaut vraiment la peine.
4 décembre
encore, on a le temps.
Allez. On part en musique avec Fanny Bloom qui nous dit « Dis, quand reviendras-tu ?» La semaine prochaine, il va me dire.
Voilà combien de jours, voilà combien de nuits, voilà combien de temps que tu es reparti. Tu me dis cette fois, c'est le dernier voyage. Pour mon cœur déchiré, c'est le dernier naufrage. Au printemps, tu verras, je serai de retour. Le printemps, c'est joli pour se parler d'amour. Nous irons voir ensemble les jardins refleuris et déambulerons. Je frissonne et j'attends que je javirai comme la rengaine. Je vais, je viens, je vire, je tourne, je me traîne, ton image me hante, je te parle tout bas. J'ai le mal de l'amour et j'ai le mal de toi. Dis, quand reviendras-tu?
Voilà. Alors avant que Mathieu Tessier se mette à chanter et qu'on arrête, ne craignez rien, vous ne l'entendrez pas. Restez avec nous, on va parler du documentaire La vie devant moi sur les adolescentes et adolescents aux prises avec le cancer, et on en parle avec Simon Vaillancourt. Donc on le reçoit dans un instant. À tout de suite.
Faramineux avec Arlette Farah.
Alors, on vient d'entendre De la Chute qui nous chantait Sophia. Et maintenant, on reçoit Simon Vaillancourt. Bonjour, Simon.
Bonjour.
Oh mon Dieu, Simon, comme il est beau, ce documentaire.
Waouh. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Quel accueil.
J'ai adoré. Ah, vraiment, c'était top. Écoute, un beau documentaire. Donc, comme j'en parlais tout à l'heure dans la présentation... La vie devant moi, documentaire sur la vie des adolescentes et des adolescents aux prises avec le cancer.
Exactement, oui.
Alors, je te laisse nous en parler un peu avant de t'expliquer ce qui m'a perturbé.
Ben oui, tout à fait. Ben écoutez, il y a quelques années, j'ai fait un documentaire qui s'appelait Stanley Volant de Compostelle à Coudjouac, où on suivait le docteur Volant, le médecin Inou,
oui.
qui marchait à travers la province
de Québec,
se rendre dans les différentes communautés autochtones pour les inciter à se dépasser, à avoir des rêves eux aussi. Et puis, on a présenté ce film-là au Festival de cinéma de Rouyn-Noranda. Et quelqu'un qui était dans le film de Stanley Volant nous avait dit, écoutez, moi maintenant, je travaille pour une fondation qui s'appelle la Fondation sur la pointe des pieds. Puis, on accompagne des jeunes qui sont en rémission de cancer. On les amène dans des expéditions thérapeutiques pour qu'ils apprennent un peu à reprendre confiance en eux, qui sortent de leur isolement. Et puis, c'est certain que c'est un sujet qui m'a intéressé tout de suite,
oui.
qui m'a fasciné. Voilà, c'est un peu de même que le projet est né.
Alors, on voit des jeunes filles, des jeunes garçons aussi qui sont là, qui parlent de leur maladie, comment ils ont reçu le choc de savoir qu'ils avaient un cancer, la gravité de ces cancers, plus ou moins, etc. Mais surtout, alors moi, ce qui m'a perturbée, il y a beaucoup de choses dedans. Et au départ, c'est un petit peu de savoir que à l'école, pour certains en tout cas, ils ont été comme repoussés. Alors, eux ont eu le sentiment d'être repoussés. Et moi, je me demandais jusqu'à quel point ceux qui n'étaient pas malades, qui étaient avec eux, comme ils ne savent rien de la maladie, puis ça fait toujours peur, on ne sait pas comment. J'ai l'impression qu'on ne sait pas comment on doit faire. On n'arrive plus à agir normalement face à quelqu'un qui a le cancer ou qui a une autre maladie qui est importante.
Oui, exactement.
Et c'est peut-être ça qui a fait qu'ils se sont sentis rejetés, repoussés par certains de leurs camarades. Pas tous, bien évidemment, mais par certains de leurs camarades.
Oui, tout à fait, parce que n'oublions pas que l'adolescence, c'est la période où on forge notre identité, on veut savoir qui on est, on veut appartenir à une gang, il y a des codes, t'es cool, ça. T'es pas cool. Puis soudainement, quelqu'un qui a le cancer, c'est pas cool. On comprend pas ce qui se passe. Sans parler du fait qu'il y a des gens qui ont peur d'attraper le cancer.
Ça,
c'est évidemment bien n'importe quoi. Mais au-delà de ça, on comprend pas ce qu'ils vivent. On comprend pas que je peux pas venir, je peux pas venir te voir, je peux pas, mes globules blancs sont bas, non, je suis trop faible. Donc, il y a des amis qui comprennent pas vraiment. Puis, au-delà de ça aussi, il y a vraiment le fait que les jeunes vivent des choses que personne d'autre de leurs amis vivent. Donc, des chimios qui te foutent à terre pendant des jours. Et ce qui fait que tu n'as plus... La perte des cheveux, comment tu te sens pas bien dans ton corps, tu as beau en parler, tes amis ne te comprennent pas. Puis, il y a des gens qui font, ben ouais, mais c'est plate, là. C'est comme, non, ça ne m'intéresse plus, cette personne. Puis, ça... J'avoue que c'est quelque chose qui nous a surpris. On ne s'attendait pas à avoir ce genre de commentaires ou de réflexions. C'est vraiment nous-mêmes au tournage qu'on n'en revenait pas, là, finalement. Là.
Alors, ils ont des conversations. Alors maintenant, après avoir parlé de ça, ben, j'ai envie de rire d'autre chose, enfin de rire, que j'ai appris, parce que je ne savais même pas que ça existait, qu'on leur proposait, si jamais, parce que les filles comme les gars ont des risques de ne jamais avoir de progéniture, et qu'on proposait de congeler leurs ovules aux filles. Enfin,
exactement.
Et pour les garçons, d'ailleurs, il y a un garçon qui explique, il y a des filles qui expliquent qu'elles n'ont pas voulu parce qu'elles voulaient se faire soigner tout de suite, puis elles gardaient une chance de pouvoir avoir des enfants. Et je m'excuse parce qu'il y a un gars qui explique.
Oui, tout à fait.
Pour avec lui, avec lui, moult détails, où il est allé, comment ça s'est fait.
Il a quel âge, le garçon?
Le garçon, à l'époque où c'est arrivé, avait environ 15-16 ans. Okay. Donc, on lui dit, si tu veux avoir des enfants, voilà, il y a une petite, voici l'éprouvette, il y a une petite chambre, tu reviens dans quelques
minutes. T'as la permission.
Il explique à un moment donné, je peux le dire, il fait beaucoup rire parce que les autres autour lui disent, alors tu devais avoir des journaux, quoi, des revues. Ah, il dit, j'osais pas les toucher. Non, j'ai regardé mon téléphone.
Ah, la technologie,
Alors, c'était très drôle. Pour les femmes, c'est beaucoup plus complexe. C'est ce qui fait que c'est... Dans notre documentaire, il y en a une, qui ça n'a pas été mentionné à l'écran, mais il y en a une qui a eu recours à ce service-là. Mais quand tu as un diagnostic de cancer, c'est que c'est fulgurant. Les gens qui ont un cancer étant âgés, le cancer se propage lentement. Mais quand tu es adolescent, tu es en pleine croissance, donc le cancer va super vite. Et on te dit, si tu veux avoir des enfants et si tu veux qu'on te congèle un ovule, on va retarder ta chimio de 2-3 semaines. Donc souvent, les jeunes n'osent pas faire ça, mais c'est plus tard parfois que ça peut se faire sentir, merde, pourquoi j'ai pas fait ça, mais c'est quand même une bonne chose que ce service-là existe maintenant. Là.
Que ce soit possible,
oui. Oui, c'est vrai, mais en même temps, ils font du sport, ils vont au-delà de de ce qu'ils se sentaient capables d'être et d'aller, c'est beau. Quand ils font du traîneau à chien, du canot, du canoë, il y a plein de choses, quoi.
Voilà. Oui, c'est ça. La Fondation offre deux types d'expéditions. Il y en a pour des jeunes qui sont encore dans leur traitement. Donc, c'est une courte expédition. C'est pour ça que ce qu'on voyait, l'expédition en Rabaska, certaines personnes, le soir venu, recevaient encore une dose, une dose de chimio ou autre chose. Donc, ça, c'est des expéditions qui sont plus mollo, qui servent surtout à sortir les jeunes de leur isolement. Mais une fois qu'ils sont en rémission, là, on leur offre une possibilité de faire une deuxième expédition qui sont plus longues, durée d'une dizaine de jours, soit du chien de traîneau l'hiver, peut être du rafting ou toutes sortes de la grande randonnée dans les bois. Et ça, c'est pas le même but. Le but, c'est vraiment, pour ceux qui sont en rémission, de leur dire, OK, maintenant, c'est fini, là, physiquement, mais là, il faut que tu te réappropries ton corps. Il faut que tu vois que tu es encore capable, que tu as encore des muscles. Il y a une femme qui nous disait qu'elle, dans ces grandes expéditions-là, s'est rendue compte, elle s'est réappropriée son corps, est rentrée dans son corps, est revenue dans son corps.
Ah, c'est formidable.
Qui lui était devenu étranger, à quelque part, durant les traitements.
Et à un moment donné, ils disent aussi dedans que... Alors, c'est une leçon de vie, et puis je trouve encore plus aujourd'hui, où on fait des séparations de partout, qu'ils aident. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui est plus faible, ils l'aident pour arriver à ce que tout le monde s'en sorte en même temps. Et je trouve ça sensationnel.
Une cohésion,
On va se faire... Simon, on va faire une petite pause musicale et on revient tout de suite après.
Parfait.
On va donc écouter Gab Bouchard qui nous chante « Étoiles ».
Plus t'approches là, plus tu vois les étoiles. Les mains qu'il y avait dans tes yeux. Les mains qu'il y avait dans les miens quand on se regardait. C'était beau. J'écris de la peinture. Que je
les mêmes qui puent dans tes yeux, les mêmes qui avaient dans les miens quand on se regardait. C'était beau. J'étais juste trop con, j'ai frappé un mur. Ma gueule contre le béton, mon cœur contre le béton.
Alors, on vient d'entendre Gabouchard Étoile et on revient avec Simon Vaillancourt. Simon, encore plein d'autres choses à dire là-dedans. Il y a un moment, alors il faut dire aussi que c'est André Robitaille qui est avec eux, qui les accompagne et qui raconte son expérience avec tous ces jeunes-là. Et à un moment donné, il est dans une conversation avec une jeune fille. Il parle de la mort et elle lui dit... Elle lui dit, moi j'ai décidé que la mort, elle serait belle. Ouais, ah, dis donc, ça m'a mis des frissons jusque dans les dents.
Oui, ah non, c'est fou. Tout à fait. C'est vraiment. Puis c'était fou, elle n'avait jamais dit ça aux gens. Elle révèle ça à la caméra.
Ah oui,
et puis. On était tous bouche bée, mais
ah, ben,
c'est beau de voir des fois. En fait, moi, ce qui me fascine, c'est de voir la maturité de ces gens-là. La contrepartie à quelque part du cancer, c'est que ça t'apporte une maturité, c'est assez quelque chose. Moi, régulièrement, après les entrevues, c'était pré-COVID, là, après les entrevues, j'allais leur faire un câlin en leur disant « Merci, merci pour ce que tu m'as appris. J'ai quelques décennies de plus que toi, mais merci de ce que tu m'as appris.
»
C'est fascinant.
Ça change la perspective d'une vie, hein?
Oh oui, exactement.
Un événement comme ça...
Oui, exactement.
La magie, elle est dans leur regard, dans leur retour, et puis dans leur... C'est comme si, en passant par André Robitaille, c'est comme si un petit peu tout le monde avait peur, enfin, tu sais, sentait un petit peu mal de poser certaines questions, on y allait sur la pointe des pieds, et puis ils répondent avec une franchise, une assurance et une compréhension de la vie qui est vraiment extrêmement surprenante et admirable.
Ah oui, vraiment. Puis, entre autres, il y a eu un moment, il y a une belle complicité entre André et les jeunes. Puis,
oui.
À un moment donné, André racontait que pendant qu'il avait son émission Entrée principale, qui est une émission en direct, il y a quelques années, quelqu'un lui avait remis sa carte de la FADOC en ondes, donc la Fédération d'Archers du Québec, parce qu'André venait d'avoir 50 ans. Puis, il racontait aux jeunes que ça avait été gênant. Et bam, une des filles de lui répondre, ben nous, on aimerait bien ça, l'avoir ça notre rentre. Carte de la FADOC
ah, oui.
un jour.
Ah oui,
hein?
Ah oui.
Plains-toi pas, mon cher.
Ouais, c'est ça aussi, hein, c'est que ils ont, c'est comme le fameux jeune homme. Je me rappelle plus son prénom, je m'en excuse. Celui qui parlait de la colère qu'il avait saisie quand il avait su qu'il était devenu, qu'il avait posé un geste violent contre le mur, hein, pas contre lui-même
exactement.
Ni contre quelqu'un, mais cette espèce de rage, d'impuissance. Mmh.
Exactement. Puis il y en a plusieurs qui se sentent pas, qui osent pas avoir une colère, qui osent pas avoir une rage, qui vont le faire en secret, en privé. Puis on a entendu des jeunes nous dire, je me sentais responsable de mes parents. Je voulais pas leur montrer que j'étais triste. Je voulais pas me montrer que je pleurais. Donc des fois je m'enfermais dans ma chambre pour pleurer tout seul parce que je voulais pas qu'ils soient tristes.
Ah oui.
C'est fascinant ça.
C'est complètement incroyable. On voit aussi, alors on parle de rémission, mais là il y a une des jeunes filles qui est là qui explique que mon Dieu, ben, son corps reprend de la santé, mais il y a des traces, des blessures invisibles, comme ils disent, des traces dans la tête, et ça, ouais. Ben, faut vivre avec, et puis faut prendre le temps de le soigner aussi.
Exactement, parce que ce qu'on nous dit, c'est que ben, ce qu'on leur dit, les jeunes, c'est ceux qui vont bien, on leur dit ben, c'est beau, c'est fait, c'est terminé, t'as plus de cancer, t'es en rémission. Le système de santé t'a dit merci, bonsoir, c'est terminé pour nous. Mais ce qu'ils nous disent, c'est qu'ils sentent avec un paquet de choses qui sont laissées en plan. Il y a une autre femme qui nous aidait, le tournage était terminé, mais une autre jeune qu'on a rencontrée qui nous disait, pour bien comprendre où on est, puis pour comprendre qu'est-ce que ces expéditions-là nous apportent, il faut comprendre où on est quand on nous dit on est en rémission. Une rémission d'un cancer, c'est un peu comme un cessez-le-feu quand il y a la guerre. Oui, OK, il y a un cessez-le-feu, donc il n'y a plus de missiles, il n'y a plus de bombes, mais la ville est détruite, le pays est détruit. Elle disait, moi, ça a pris des semaines et des mois à me rendre compte de tout ce qui avait été détruit en moi. Et parfois, c'est des mois après, ah, il y a cette partie-là de moi qui a été détruite, je m'en étais pas aperçu, il y a cette partie-là qui a été détruite, donc c'est se reconstruire peu à peu, reconstruire qui on est, reprendre confiance en soi, et ça, ça n'a rien à voir avec le côté physique, ça se passe dans la tête, puis c'est pour ça que ces expéditions-là ont lieu pour faire une étincelle pour redonner le goût aux jeunes de se reconquérir eux-mêmes, de reprendre contrôle de leur vie puis de se faire confiance à nouveau.
Vous les avez suivis combien de fois? Puis si vous l'avez dit, vous m'excuserez de ne pas l'avoir entendu. Le tournage a duré combien de temps?
Ben, écoutez, c'est un tournage qui était réparti sur plusieurs années. Il y a des jeunes qu'on a vu dans une première expédition en 2017. Qu'on a revu en 2018, il y a des gens qu'on a tournés en 2019, il y a eu une expédition. On est allé chercher des choses de différentes expéditions, mais les tout premiers, c'est 2017 avec l'entrevue finale en 2020. Donc, ça s'est fait en 3 ans environ.
Alors, dans les deux minutes qui nous restent, je voulais aussi parler de ce jeune homme qui parle de sa tumeur au cerveau.
Oui, Aiden.
Waouh!
C'était fascinant. Vous m'en parlez, mais j'ai encore les frissons. Je tournais ce matin-là où le jeune se lève pas, il est dans sa tente, puis comme c'est raconté dans le film.
Oui, on croit qu'il est en train de dormir, de se reposer.
Oui, c'est un ado, il veut pas se lever, c'est normal, c'est un fainéant. Mais non, pas du tout, il y avait un mal de tête incroyable, il y avait vraiment une migraine. Ils lui ont donné de la morphine, puis ils se sont rendus compte. Puis dans les expéditions, il y a toujours un médecin et une infirmière bénévole qui suivent au cas où il arriverait quelque chose. Et là, ben le médecin l'a envoyé tout de suite à l'hôpital, et quelques jours après, il était opéré. Il était opéré au cerveau parce que sa tumeur est juste derrière les yeux, en plein centre. En fait, il ne pouvait pas enlever la tumeur parce qu'elle est trop collée sur son cerveau, les yeux et tout ça. Mais il y avait un surplus de pression et un canal de drainage qui était bloqué. Donc, on y a ouvert pour débloquer. Et quelques mois après, il repartait en expédition. Mais c'est... Ouf! Oui.
Ouais. C'est un truc de fou. Alors, ce documentaire, il faut qu'on le dise avant qu'on se quitte, qu'il va passer sur les ondes de ICI Radio-Canada le 27 novembre, et puis qui sera aussi disponible sur Tout TV.
Et il est déjà disponible sur Tout TV, ceux les plus impatients peuvent le regarder sur Tout TV, sinon samedi 22h30 à la télé de Radio-Canada.
D'accord, parce que ça vaut vraiment... Bravo pour ce que vous avez fait.
Merci infiniment.
Moi, ça m'a appris plein de choses... Enfin, je fais partie aussi des gens qui, devant certaines maladies importantes, ne sais pas vraiment comment me conduire. Et ça m'a fait du bien.
Je comprends tout à fait. Puis il y a des gens qui vont se dire « Ah non, je veux pas écouter ça. Ah, » Non, c'est pas... On a essayé de faire quelque chose lumineux et de positif. Donne le goût de mort dans la vie, donc dites-vous pas
c'est très vivant, et il y a des moments, il y a beaucoup de moments où j'ai ri.
C'est parfait, avec c'est eux. Ce qu'on voulait.
Alors Simon Vaillancourt, merci beaucoup. On attend un prochain avec impatience, et moi rien qu'à votre nom, et ben j'irai.
Ben merci infiniment, bonne fin de journée,
sans savoir ce que
merci
c'est
beaucoup.
Merci, au revoir. Voilà, donc on part en musique. Tiens, du coup, je sais plus ce qu'on devait écouter. C'est Léa Passy qui nous chante Adolescent pirate.
Un peu saoul, je déambule sur les lignes du métro. Crépuscule sans héros, solitude dans le rétro. J'éteins mon mégot sur le cœur des Jedi. Les yeux vitreux, je l'ai. Mitraille, un peu saoul, sans matricule, j'écume la nuit noire, je consomme du bonheur que je perds sans savoir, je t'oublie quand.
le dimanche, j'ai le cœur balançoire. Je passe des rêves aux cauchemars.
Chanceuse de voyager ainsi.
Et ben voilà, elle voyage. Et c'est vraiment, pour revenir à Simon Vaillancourt et à La vie devant moi, ce documentaire-là, allez le voir, il est... non seulement c'est beau, mais c'est pas triste. Au départ, on se dit, mon Dieu, ces enfants, pauvres enfants,
ça va être lourd,
je suis comme ça.
Ouais.
Ben, je l'ai fait un petit peu avec cet après-midi, ayant moi-même des enfants, j'imagine, si jamais ça arrivait, ce que ça me ferait. Mais en même temps, on a aussi à l'intérieur de ce documentaire des parents qui parlent et puis, les enfants sont tellement clairs entre eux de ce qu'ils ont vécu, de ce qu'ils ont encore à vivre, de comment ils vont le prendre. C'est hallucinant, c'est des leçons de vie, quoi. Mmh. Et puis c'est drôle en même temps, on les voit faire du sport. Et on voit cette entraide quand ils font du sport ensemble, de cette façon de s'entraider tous pour que... quand il y en avait des plus faibles, eh ben, ils aidaient, etc. C'est quelque chose qui devrait être partout, ça.
Normalisé, ouais.
Est-ce qu'on le vit partout? J'en suis pas sûre. Ça serait quand même bien qu'on n'ait pas besoin d'être malade pour avoir cette façon de faire. Merci Mathieu Tessier.
Merci
à vous toutes et tous d'avoir
Nicolas.
Été avec nous. Merci Nicolas Wartmann.
C'est un plaisir.
J'aime bien dire son nom en entier. Alors on te dit à la semaine prochaine, toi. Et puis vous, eh ben, je vous dis à demain. Soyez là demain. À la semaine prochaine aussi.
À la semaine prochaine, Arlette.
Bye. Au revoir.